journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. Quand Emmanuel Macron s'empare du débat sur l'immigration, sujet majeur de son intervention devant des parlementaires de la majorité hier, trop de demandes d'asile abusives, dit le président, qui ne veut pas laisser le sujet à Marine Le Pen. Un plan anti-drogue annoncé dans le berceau de la French Connection, Marseille, où quatre ministres viendront dévoiler la réforme des stupes et mettre du lien entre les services, police, gendarmerie et douane. Netanyahou stop ou encore ces jours d'élection en Israël. Dans ce journal, nous serons avec des Arabes israéliens. Nous verrons grâce à la cellule investigation de Radio France comment des navires de guerre français sont utilisés dans la guerre au Yémen. Et puis on s'intéressera à la petite enfance avec votre invité Nicolas, un homme toujours passionnant dans ce studio tout à l'heure.
Et un homme qu'Emmanuel Macron a chargé d'une mission sur les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik avec nous à 8h20. Appelez-nous, le standard est déjà ouvert. N'oubliez pas les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Dans ce journal aussi, Parcoursup et la sélection à l'université, ça donne des résultats en fin de première année. Le cancer du col de l'utérus, on peut faire beaucoup plus pour l'éviter. Et puis un bon Woody Allen au cinéma demain, nous dira Eva Bettan.
France Inter.
Il n'y a pas que le social qui préoccupe les Français, les retraites, le pouvoir d'achat, c'est important. Mais si c'était le thème de l'immigration qui s'imposait pour les prochaines élections, c'est le pari que semble faire Emmanuel Macron. Il faut armer la France pour affronter les moments de déstabilisation migratoire, disait il y a quelques jours Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Et de fait, le président en a beaucoup parlé hier soir devant ses ministres et 200 députés et sénateurs de la majorité réunis sans journalistes à moins de 15 jours d'un débat sur l'immigration au Parlement. Ne pas être un parti bourgeois, dit-il, ne pas laisser cette question au Rassemblement national. Marc Potvin.
Le message d'Emmanuel Macron est clair, la majorité doit regarder ce sujet de l'immigration en face, ne pas fermer les yeux, par exemple sur les demandes d'asile abusives. Le député Modem Bruno Millienne ressort convaincu du ministère.
Il y a une partie du droit d'asile qui est détournée de son objet premier, mais c'est normal. Si vous vous retrouvez dans la situation des populations qui viennent, vous savez que vous pouvez rentrer sur le territoire français si vous bénéficiez d'un droit d'asile, vous faites quoi? Vous n'allez pas dire que vous venez pour des raisons économiques.
Le député poursuit, les demandes d'asile en France n'ont jamais été aussi élevées qu'en ce moment, alors que le flux migratoire n'a jamais été aussi bas en Europe. C'est exactement ce que dit Emmanuel Macron, qui insiste sur l'importance de l'immigration pour une partie de la population, comme le rapporte la députée Aurore Berger.
De fait, ce ne sont pas les classes les plus favorisées qui sont confrontées aux problématiques issues des questions d'immigration, mais bien les classes populaires, il l'a dit, qui vivent avec.
Des classes populaires qui ont migré vers l'extrême droite, analyse le président, qui n'a pas renoncé à les ramener dans son giron à quelques mois des municipales, mais pas sûr que cette offensive sur l'immigration fasse l'unanimité. Le sujet reste sensible dans la majorité. En témoigne la loi Asile et Immigration adoptée dans la douleur l'an dernier.
Et avec l'immigration, l'autre sujet régalien du jour, c'est la lutte contre la drogue, cannabis, cocaïne, héroïne, un marché à 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires estimé par an en France. Et c'est pour lutter contre ce premier des business du crime que quatre ministres descendront à Marseille aujourd'hui. Christophe Castaner, son secrétaire d'État Laurent Nunez, Nicole Belloubet à la justice et Gérald Darmanin pour les douanes annonceront une refonte de l'office anti-stup sur fond de réorganisation des services ces derniers mois. Le but étant, Emmanuel Leclerc, de mettre fin à la guerre des polices pour être plus efficace face au trafic.
L'objectif, c'est d'abord de ne plus voir des files d'attente de clients dans certains quartiers de moyenne et grande ville avant l'ouverture des points de vente de drogue en toute impunité. Ça, ce n'est plus possible, confié hier après-midi un haut responsable de la police judiciaire Place Beauvau. Il faut être beaucoup plus des empêcheurs de dealer en rond. Et pour cela, il faut absolument éviter de travailler chacun dans son coin, affaire par affaire, sans se les court-circuiter comme ce fut le cas régulièrement ces dernières années, affirme un autre spécialiste de la lutte anti-drogue, gendarme, magistrat, douanier et policiers, dont certains ex-chefs ont été mis en examen pour des guerres de police totalement stériles et dévastatrices. Désormais, tout le monde est réuni au sein du nouvel office anti-stup pour mieux gérer les informateurs, pour mieux identifier l'ensemble des filières face à des groupes criminels qui, selon un commissaire, ont les mêmes moyens de surveillance que les enquêteurs, voire parfois beaucoup mieux équipés. Brouilleurs, traceurs, téléphones cryptés, au moins ça prouve qu'on leur fait un peu peur, poursuit le commissaire, sans oublier sans doute que les trafiquants se protègent surtout parfois de leurs concurrents.
L'an dernier, 100 tonnes de cannabis ont été saisies en France, 18% de plus qu'en 2017. La divine intervention des évêques de France contre la PMA élargie à toutes les femmes. Le président de la conférence des évêques estime que les citoyens inquiets d'une marchandisation de la procréation ont le devoir d'aller manifester le 6 octobre à l'appel des associations anti-PMA. Alors que le sujet sur la bioéthique doit être, la loi sur la bioéthique doit être débattue à partir de la semaine prochaine à l'Assemblée.
Il est 8h06, Florence, les Israéliens aux urnes aujourd'hui pour élire leur Parlement.
Et garder ou pas Benjamin Netanyahou comme Premier ministre. Il n'avait pas réussi à former de coalition il y a 5 mois, d'où ces nouvelles élections. Son principal adversaire s'appelle Benny Gantz, ancien chef de l'armée, aujourd'hui leader d'une formation de centre droit. Peut-être pourra-t-il compter sur les voix des Arabes israéliens. Il constitue 20% de la population du pays. De quoi théoriquement faire basculer une élection, sauf qu'il vote peu. Reportage dans une ville du Negev, dans le sud, signé Frédéric Mettezo.
Rahat, 69 000 habitants, est peuplé quasi exclusivement de bédouins sédentarisés. Le taux de chômage atteint les 17% contre 4% au niveau national. Pour Majdi, 30 ans, étudiant en médecine, les inégalités sont profondes et elles commencent très tôt.
Les étudiants, tous les gens ici sont moins égaux que les étudiants de, vous savez, l'autre partie du pays. La plupart des étudiants ici veulent atteindre le plus haut niveau. Nous ne sommes pas la périphérie, nous sommes le centre. Pour moi, c'est le même pays, mais pas pour eux.
In my point of view, not in their point of view.
Benny Gantz est venu faire campagne ici. L'accueil a été chaleureux. Salé, cadre d'entreprise, apprécie le candidat centriste.
C'est un homme bon. Peut-être qu'il va nous changer de Bibi Netanyahou, ce fou qui n'aime pas les Arabes. Je suis israélien. J'appartiens à cette terre. J'appartiens seulement à Israël.
Durant toute sa campagne, Netanyahou a accusé les électeurs israéliens arabes de fraude. Leurs bureaux de vote seront très surveillés aujourd'hui. Rahat, Frédéric Mettezo, France Inter.
Face à l'Iran, la prudence de Sioux de Donald Trump, l'Iran que l'Arabie Saoudite accuse d'avoir mené des attaques aux drones sur ses installations pétrolières samedi. Mais avant de riposter, je veux savoir avec certitude qui est responsable, dit le président américain. Du point de vue économique, les Saoudiens, premiers exportateurs de pétrole, voient leur production chutée de moitié. Le cours du baril s'est envolé de plus de 14% hier à Wall Street, du jamais vu depuis la guerre du Golfe, ce qui devrait se répercuter par une hausse rapide de 5 centimes le litre à la pompe, prévient l'Union française des industries pétrolières. Sur le fond maintenant, on ne sait toujours pas d'où sont venus ces drones qui ont bombardé l'Arabie Saoudite. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont revendiqué les attaques. Et on s'intéresse de nouveau ce matin au rôle de la France dans cette guerre du Yémen qui oppose par procuration l'Iran et l'Arabie Saoudite. On a déjà parlé des armes que la France a vendues aux Saoudiens. La cellule investigation de Radio France, en partenariat avec Lighthouse Report et Disclose, nous révèle aujourd'hui, preuve à l'appui, que des navires de guerre en font partie, vendus par la France et utilisés dans le blocus maritime responsable de la famine au Yémen. La maintenance d'un de ces bateaux est même toujours assurée par une société française dont l'État est l'actionnaire majoritaire, Abdelhakel Idrissi.
On savait que des navires de fabrication française étaient probablement impliqués dans le blocus maritime du Yémen. Cette présence était déjà évoquée dans une note confidentielle française révélée en avril dernier. Mais en examinant des dizaines de vidéos disponibles sur Internet, nous avons trouvé la trace, fin 2015, de l'implication de deux navires. Le premier est une corvette émiratie fabriquée par le français CMN qui arraisonne un bateau indien au sud-ouest du Yémen. Et dans l'autre vidéo, on peut voir une frégate saoudienne de type Lafayette qui effectue un contrôle similaire. Mais nous avons surtout découvert que cette frégate et d'autres navires saoudiens faisaient l'objet de contrats de maintenance de plusieurs centaines de millions d'euros confiés à Naval Group, une société détenue à 62% par l'État français. Des contrats qui sont, à notre connaissance, toujours en cours. Le débat autour de la vente d'armes à l'Arabie Saoudite se concentrait jusqu'ici sur l'État, mais la question de la responsabilité éventuelle des entreprises en lien avec ces pays pourrait donc également se poser.
Voilà, et la vidéo complète de la localisation de ces navires est visible sur franceinter.fr. Siéger ou ne pas siéger, là est la question à laquelle la Cour suprême de Londres va devoir répondre aujourd'hui, saisie par des députés britanniques qui contestent toujours la suspension du Parlement en plein psychodrame sur le Brexit.
Il est 8h10 chez les Européens, Florence. Le sujet du moment, c'est la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen.
Va-t-elle passer le filtre des auditions? Chaque commissaire entendu 3 heures par les députés européens à la fin du mois, leur nomination approuvée ou pas. Le cas Goulard fait débat, commissaire française chargée du marché intérieur. Sylvie Goulard avait démissionné du gouvernement Macron à cause de l'affaire des emplois fictifs du même Parlement européen, ce qui émeut à Strasbourg, Angélique Boin.
4 commissaires font l'objet de soupçons ou de poursuites judiciaires dans leurs pays respectifs et ce sera particulièrement difficile pour Sylvie Goulard, concède Arnaud Danjean. Pour l'eurodéputé de droite, sa nomination n'est pas garantie à 100%.
Les choses sont relativement imprévisibles. Personne ne va contester la compétence de Sylvie Goulard sur les affaires européennes. En revanche, c'est vrai que, et particulièrement j'allais dire chez mes collègues étrangers, c'est assez étonnant que l'on puisse être amené à démissionner d'une fonction ministérielle française et revenir par un poste de responsabilité européen.
Ses relations passées avec une fondation américaine, alors que son futur portefeuille englobe la défense, pourraient aussi coincer. Cela touche à des questions de souveraineté, soulignent certains élus. De là à être retoqué, Sylvie Guillaume en doute. Plusieurs familles politiques ont un candidat fragile et tout le monde se tient, fait remarquer l'eurodéputé socialiste en rejoignant l'hémicycle.
On nous dit qu'il y aurait des mesures de dissuasion entre les uns et les autres, entre les groupes, puisqu'il y a un certain nombre de commissaires qui sont quand même assez en difficulté. C'est pas tout à fait banal quand même, et il va falloir faire beaucoup de travail de contenu sur ces auditions.
Verdict courant octobre lors de la prochaine session. À Strasbourg, Angélique Boin, France Inter.
Un revenant à Grenoble, c'est Alain Carignon, candidat au municipal, après avoir été condamné à 4 ans de prison pour corruption dans les années 90. Il le dit dans un livre sobrement intitulé « Alain Carignon est un homme libre, Grenoble 2020 ».
De l'efficacité de la sélection à l'université.
Au moins dans les filières en tension que les élèves intégraient auparavant après un tirage au sort. Depuis l'an dernier, ce sont les dossiers, les notes qui déterminent les admissions. Ces filières très demandées se retrouvent donc avec les meilleurs élèves, ce qui se ressent dans leurs résultats de fin de première année. Sonia Princey.
À l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la sélection est drastique. 46 dossiers pour une place dans les licences les plus demandées. Résultat, le taux de réussite en fin de première année a augmenté en moyenne de 7,5%. C'est normal quand on prend les meilleurs, reconnaît Georges Haddad, président de l'université Paris 1.
Nous sommes très demandés. Si on se laissait aller, on aurait tous les bacheliers mention très bien. On n'est pas sur APB, le tirage au sort et ça.
Il est clair qu'aujourd'hui, si on fait un bilan, Parcoursup a amené beaucoup de très bons étudiants à nous choisir et à moins se restreindre dans leur ambition d'une université de prestige.
Dans les autres universités, dans les filières en tension comme STAPS, la filière sportive, les taux de réussite ont augmenté jusqu'à 12%, un succès que relativise Anne Roger, secrétaire générale du syndicat SNESUP et enseignante en STAPS à Lyon.
C'est au prix de la mise à l'écart majoritairement des bacs professionnels, hein, puisque par exemple à Lyon, entre 2017 et 2019, on est passé d'un taux de 10% de bac pro à un taux de 1,1% cette année de bac pro. Ça se fait évidemment au bénéfice des bacs S, pour lesquels on est passé de 41,1% à 56,4% cette fois-ci.
La hausse des taux de réussite dans les filières en tension est donc à prendre avec beaucoup de pincettes.
Sonia Princey, voilà un cancer qui pourrait être évité ou presque, le cancer du col de l'utérus, l'un des plus fréquents chez les femmes. Le nombre de cas diminue en France depuis 30 ans, mais pas assez, selon Santé publique France, qui publie une grande enquête aujourd'hui. Véronique Julliat, la vaccination et le dépistage ne sont pas suffisamment pratiqués.
Près de 3000 nouveaux cas et plus de 1000 morts chaque année en France, c'est 25% de moins qu'en 1990. Mais ce qui inquiète, c'est que ce recul, constaté depuis 30 ans, a tendance aujourd'hui à ralentir, voire à stagner. On constate même une légère augmentation depuis quelques années chez les 45-65 ans. Les pratiques sexuelles et le nombre de partenaires exposent davantage les femmes au papillomavirus à l'origine de ce cancer. Le nombre de lésions précancéreuses augmente d'ailleurs depuis 15 ans. Mais dans le même temps, le dépistage et la vaccination contre le virus restent très insuffisants. Moins moins de 30% de jeunes filles vaccinées en France et moins de 60% de femmes dépistées. Un programme est en cours pour tenter d'atteindre 80% de dépistage chez les 25-65 ans. En revanche, le vaccin recommandé depuis 2007 pour les jeunes filles à partir de 11 ans peine toujours à convaincre. Si la majorité des parents et des jeunes femmes ont conscience de la gravité de la maladie, plus de la moitié se disent convaincus que le vaccin peut avoir des effets secondaires graves. Les médecins ont un rôle à jouer pour convaincre, mais leur soutien n'est pas encore totalement acquis, puisque certains généralistes, relève Santé publique France, ne proposent toujours pas la vaccination.
Avis aux amateurs de foot européen, coup d'envoi ce soir de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Lyon reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg à 19h. À 21h, Lille affrontera l'Ajax à Amsterdam. Enfin, de Woody Allen, on ne parle plus ces derniers temps que des accusations d'agression sexuelle à son encontre, de ses comédiens qui ne veulent plus tourner avec lui, de son dernier film qui n'est pas sorti aux États-Unis. Ça, il s'appelle Un jour de pluie à New York. Nous, on va le voir en France demain. Et il faut parler de ce film, Eva Bétan, parce que c'est un bon film.
Un jour de pluie à New York, c'est du champagne millésimé, car nous sommes chez les très riches. Et en plus, ils sont jeunes, beaux et cultivés. Ashley, Elle Fanning et Gatsby, Timothée Chalamet, couple d'étudiants venus passer un week-end à New York. Mais le verre est dans le fruit. Gatsby préfère le poker aux études, les bars au salon, la marge ou la norme. Voici donc le dilemme du film et la référence personnelle pour Woody Allen.
Si j'avais eu 20 ans, j'aurais joué ce personnage. Il ressemble beaucoup à ce que j'ai été. J'étais en marge à l'école. J'aimais le jazz alors que les autres gamins aimaient les chansons populaires. J'aimais jouer aux cartes, parier. Je préférais les jours de pluie aux journées ensoleillées.
Sens du timing, réplique en rafale, second rôle épatant, image du grand directeur de la photo Vittorio Storaro. Ce n'est peut-être pas un chef-d'œuvre comme Blue Jasmine, mais c'est du très très bon Woody Allen et c'est un film frais. Certes, le film a été tourné en 2017, avant le gros des problèmes qu'a connu Woody Allen. Mais cela faisait longtemps déjà que l'atmosphère autour de lui n'était pas sereine et on est frappé par le décalage entre la fraîcheur, la joie du film et la vie de quasi-paria dans son pays de Woody Allen aujourd'hui.
Voilà, Eva Bétan qui a longuement interviewé Woody Allen et vous pouvez la relire cette interview sur franceinter.fr.
Merci Florence Paracuelos.